Bonjour à tous, Guy Wagner. Vous écoutez Radio Grand Ciel à Dreux, émission Ensemble qui donne la parole aux associations. À la technique, Pierre Ricard. Nous accueillons aujourd'hui M. Michel Suchot, président de l'association Les Chemins de Compostelle en Eure-et-Loire. En cette nouvelle année 2017, nous souhaitons à tous nos auditeurs nos meilleurs vœux et une grande réussite pour vos projets. Pour introduire cette émission, je vous propose de citer quelques lignes du livre de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, Immortelle randonnée. Lorsque, comme moi, on ne sait rien de Compostelle avant de partir, on imagine un vieux chemin courant dans les herbes, et des pèlerins plus ou moins solitaires, qui l'entretiennent en y laissant l'empreinte de leurs pas. Erreur grossière, que l'on corrige très vite lorsqu'on va chercher la fameuse crédentiale. Document obligatoire pour accéder au refuge pour pèlerins. On découvre alors que le chemin est l'objet sinon d'un culte, du moins d'une passion, que partagent nombre de ceux qui l'ont parcouru. Toute une organisation se cache derrière le vieux chemin. Des associations, des publications, des guides, des permanences spécialisées. Le chemin est un réseau, une confrérie, une internationale. Nul n'est contraint d'y adhérer. Mais cette organisation se signale à vous dès le départ, en vous délivrant la credencia, ce passeport qui est bien plus qu'un bout de carton folklorique. Car dûment fiché, comme futur ancien pèlerin, vous recevrez désormais des bulletins d'études savants, des invitations à des sorties pédestres et même, si vous habitez certaines villes, à des séances de restitution d'expérience organisées au cours de voyageurs fraîchement rentrés. Ces rencontres amicales autour d'un verre s'appellent le vin du pèlerin. Pensez-vous que ça reflète, Monsieur Suchot, ce que vous vivez et quel est le rôle de votre association en Eure-et-Loire ?
J'ai beaucoup aimé ce livre lorsqu'il est sorti. Je trouve que Jean-Christophe Ruffin a assez bien décrit, je dirais, le rituel du chemin. Ce qui manque peut-être dans l'ouverture là qu'on vient d'entendre, c'est le fait que c'est quand même un chemin qui est immémorial, c'est-à-dire qui date de l'an, enfin à partir de l'an 850 à peu près. Il y a eu des gens qui sont partis à pied vers Compostelle, qui sont revenus quand même pour la plupart. Ça, c'est quand même le fondement même de ce chemin. Et moi, je résumerai rapidement le fait que sur ce chemin-là, et pas sur les autres, et ça fait partie des mystères que j'ai toujours pas éclaircis et que je pense que moi, je ne comprendrai pas. Pourquoi Compostelle ? Pourquoi cet esprit sur ce chemin-là et pas les autres ? Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et lorsqu'on a vécu cette expérience vers Compostelle, même si on est un grand marcheur et qu'on a fait des chemins dans tous les sens, c'est pas les mêmes. Il y a quelque chose en plus. Et on pourrait en discuter toute l'après-midi, mais je pense qu'on n'a pas de réponse précise là-dessus. Chaque pèlerin a son pèlerinage, chaque pèlerin fait son pèlerinage.
Oui, surtout qu'en réalité, Jean-Christophe Ruffin parcourt le chemin, mais il y a deux chemins. Il y a le chemin du nord de l'Espagne et le chemin du sud.
Jean-Christophe Ruffin a parcouru le Camino del Norte, mais il y a aussi des variantes. Camino Primitivo, vous avez aussi le chemin principal du Camino Frances, qui est le plus... Je dirais c'est l'autoroute à pèlerins, c'est peut-être un peu dommage. Voilà. Par rapport au Camino Frances, vous en avez des parallèles qui se créent d'anciens chemins qui ont été remis au goût du jour parce qu'il y avait trop de monde. Vous avez des chemins qui viennent du sud de l'Espagne, vous en avez qui viennent du Portugal. Vous avez aussi en France ce qu'on appelait les quatre chemins principaux, la voie de Tours, la nôtre, la voie du Puy, la voie de Vézelay et la voie d'Arles. Et vous avez la voie Romieuse aussi, celle qui suit la côte, qui passe par Arles aussi. Il y a énormément de variantes. Et ce qui est intéressant, c'est quel que soit le chemin que l'on parcourt, on retrouve le même esprit du chemin partout. Je dirais qu'une petite nuance quand même, c'est que sur le chemin du Puy en particulier, c'est devenu une autoroute à touristes et ça présente quand même, pendant la haute saison, juillet-août, ça devient infernal, quoi. Mmh. Voilà.
Et en Eure-et-Loire, c'est lequel alors ?
Alors en Eure-et-Loire, ce sont les chemins qui vont qui vont aller à Tours, donc la viature en Ancis, qui se rejoignent à Chartres, celui qui vient d'Angleterre, qui passe par Dieppe, qui passe par Rouen, qui passe par Évreux, Dreux et Chartres. Et vous avez celui qui vient de Paris, qui entre à Épernon et qui va sur Chartres. Ceci étant dit, vous avez un peu partout des chemins annexes qui viennent se raccorder. En gros, ce qu'on dit, c'est un grand entonnoir qui, pour notre chemin de Tours, se réunit à Tours. Et vous en avez sur les trois autres villes la même chose, c'est-à-dire que ça vient de l'Europe entière. Les plus connus sont évidemment ces quatre tronçons, mais vous avez des chemins qui viennent de Moscou, qui sont connus. Vous en avez un qui vient de Trondheim, quelque part en Norvège. Vous avez en Angleterre, ça démarre à Canterbury, mais ça vient d'Écosse. Le principe, il est le pèlerin part de chez lui, normalement, à pied, et il rejoint un des chemins connus. Mais il y a encore 50 ans, il n'y avait pas de chemin connu. Chacun faisait comme il pouvait, en suivant, alors, historiquement, les voies romaines, puis les grands chemins au Moyen-Âge. Et puis, bon, bah, maintenant, ça a un petit peu varié quand même, parce que y a des autoroutes, vous avez des voies ferrées, et on ne traverse pas une autoroute n'importe où. Mm-hmm. Donc on est bien obligé de passer par les points majeurs, entre mm-hmm. guillemets. Alors okay. À jadis, les points majeurs, c'était les églises, c'était les monastères. Maintenant, les points majeurs, c'est les passages obligés, entre guillemets. Bon, Chartres en particulier, mm-hmm. pour notre département.
Et il y a une relation entre ce qu'on appelle les GR, les grandes randonnées, là, les chemins de grande randonnée, et puis les chemins de Compostelle.
Voilà. Alors ça fait partie des choses qui sont en train de se mettre en place, c'est-à-dire des accords, soit départementaux, soit même nationaux, pour que la FFR puisse reconnaître nos chemins qui sont traditionnels, on va les appeler comme ça, nos chemins traditionnels, qui sont souvent les mêmes, mais pas toujours. Alors en Normandie, il y a eu, et ça c'est magnifique, un accord entre la FFR, les associations, les offices de tourisme, enfin tous les organismes officiels et les associations se sont mis autour d'une table et ont défini un chemin qui est un chemin commun. Alors c'est tantôt un GR, tantôt un raccourci entre guillemets, qui est pris en compte par une association locale. En Eure-et-Loire, on a un accord aussi de principe entre la FFR et nous, disons, lorsque c'est la FFR, on ne balise pas nous, on met simplement un petit rappel avec la coquille jaune à fond bleu, la coquille européenne. Soit c'est notre chemin à nous qui est en jaune et bleu, chaque fois que nous avons repris les trajets des chemins traditionnels.
Parce que les GR, c'est rouge et blanc.
Voilà, les GR, c'est rouge et blanc, et nous, c'est jaune et bleu.
Et c'est jaune et bleu.
Voilà. Et tout au long du chemin, vous retrouvez la petite coquille jaune et bleue européenne qui D'accord. a été définie par l'Europe et qui permet de dire, même sur un GR, là, vous êtes sur les chemins de Compostelle. Et c'est ça, la jaune et bleue, un carré jaune et bleu. En Eure-et-Loire, on a la complexité que le département a voulu faire des chemins dits de Compostelle pour les vélos, qui ont la particularité d'aller dans tous les sens. C'est-à-dire que sur le même poteau, vous pouvez avoir à droite ou à gauche, ça dépend des endroits, une direction. Et ça, c'est pour les vélos, c'est très bien. Par contre, pour les piétons, c'est pas bon du tout. On a un raccourci, entre guillemets, pour traverser le département de 50 km, donc en gros 2 jours de marche, en suivant les chemins GR plus les traditionnels, alors que si on suit uniquement les GR, on s'écarte pas mal du chemin, quoi.
Et alors, votre association, dans ce cadre-là, quel est son rôle ?
Alors, notre association, je dirais que son article 1, le plus important, c'est l'accueil et le suivi du pèlerin individuel. C'est-à-dire qu'en téléphonant à un numéro qui se trouve sur notre site internet, Compostelle 28, vous pouvez avoir une aide pour trouver un accueil, soit dans des familles, accueil pèlerin, qui est souvent un accueil chrétien, soyons clairs, mmh. mais pas toujours. Mmh. Et on a aussi 3 mairies en Eure-et-Loire qui mettent à disposition soit des lits, soit des matelas dans des salles, avec toujours à proximité minimum point d'eau, possibilité de faire chauffer une gamelle, et sanitaire évidemment, pour accueillir des pèlerins de passage une nuit. Alors la tradition, c'est une nuit, jamais plus. C'est-à-dire que sauf cas grave, entre guillemets, le pèlerin arrive, demande un accueil, on lui dit, vous avez tel endroit, et le lendemain, il repart, ça c'est la tradition. Et ce sont des accueils qu'on appelle, nous, donativo, c'est-à-dire en contribution volontaire, c'est-à-dire que les gens accueillent le pèlerin, si le pèlerin peut, il laisse son écho, quelquefois, d'abord, il y a des familles qui refusent, ça c'est leur souhait. Et quelquefois, le pèlerin peut aussi dire, écoutez, là, je suis vraiment dans la gêne pour une raison X. Il laisse rien ou une somme très symbolique. Bon, ça se passe toujours très bien. On a très très rarement, enfin pour l'instant depuis quelques années dont je me, pendant lesquelles je me suis occupé de la sauce, on a un cas où il y a eu un abus, quoi. Une personne qui était un petit peu escroc sur les bords, on va dire. Bon, voilà. Si vous voulez, normalement, la personne qui a besoin appelle. Nous, on a une personne, Claire, qui s'occupe de l'accueil téléphone et qui va prendre contact avec une famille en disant « Est-ce que demain soir, par exemple, vous pouvez accueillir un pèlerin ?» La famille dit « Bah oui, demain soir, pas de problème, on l'accueille. » Et quelquefois, elle peut dire « Bah non, demain, on n'est pas là, on est de la famille. » Enfin bref, c'est pas disponible. À ce moment-là, lorsqu'il y a une réponse positive, on donne le numéro de téléphone au pèlerin, pas l'adresse. Le pèlerin va appeler cette famille, va prendre contact et bon, la plupart du temps, ça se passe très bien. Mais la famille a toujours le choix de dire bah non, pour une raison que l'on n'a pas à savoir, je peux pas.
Et alors des pèlerins, attention. Des types de pèlerins, c'est très divers. Il y a aussi bien des Français, des étrangers qui viennent du Nord, des hommes, des femmes, des jeunes, des...
Alors là, oui, si vous voulez, en Eure-et-Loire, on a la spécificité d'être sur le parcours des Flamands. Et qui dit Flamand dit vélo. Et donc on a, je dirais, que 70% des pèlerins qui passent sont à vélo. Et on a sur le, on va dire à peu près une centaine de pèlerins qui viennent de Paris à pied. Et sur la voie de Tours, sur la voie de qui passe par Dreux, on va dire entre 30 et 50. C'est difficile à savoir parce que vous avez des gens qui passent puis qui nous demandent rien. Donc on ne sait pas. Le compteur à pèlerins, ça reste à inventer entre guillemets. Et à Chartres, c'est très compliqué parce que bah, c'est quand même une grosse ville, entre guillemets. Et donc, les pèlerins en vélo, bah, en général, ils vont au camping. Ou pas. Ils viennent visiter Chartres. Et puis, ils repartent. Et on n'a aucune trace. Ceux qui viennent à pied, c'est un peu plus simple parce que les points de chute sont quand même relativement rares. Et l'hôtel Saint-Yves, qui fait un prix pèlerin d'ailleurs très intéressant, nous dit, ben voilà, moi j'ai vu tant de personnes dans l'année, on a des repères plutôt un petit peu plus au sud de Chartres, parce que là les, comment dire, les points de chute sont plus limités, donc on les voit mieux passer. On n'est pas sûr du tout du nombre de pèlerins qui passent. Alors, il y a déjà quelques années, on avait fait appel à un statisticien qui nous avait dit, il passe à peu près 700 personnes par an sur les chemins de Compostelle à Chartres, et 150 à pied. Bon, peut-être.
Mais alors les vélos empruntent le même chemin que les pieds ?
Pas tout à fait, parce que les vélos, surtout les Flamands, ils sont extrêmement organisés et ils ont un roadbook qui leur donne exactement tous les détails et eux prennent en priorité les petites routes pour être à peu près tranquilles. Alors que le pèlerin à pied, on va plutôt l'engager à le passer dans les chemins. C'est plus agréable et moins dangereux. Voilà.
Et donc Comme activité supplémentaire, vous avez...
Voilà. Alors, si vous voulez, on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est-à-dire que notre travail a été de rechercher les chemins traditionnels en Eure-et-Loire à partir de documents, soit on les a trouvés à la bibliothèque départementale, aux archives, soit sur Internet, avec les fameuses cartes de Cassini en particulier, qui permettent de dire, on est sûr qu'à telle époque, il y a eu des grands chemins qui passaient par là, enfin qui allaient de là à là. Donc ça, c'est une source très intéressante. Après, on a pris des vieilles cartes d'état-major qui traînaient à droite à gauche, et on a les cartes à 25 millième qui sont incontournables, et puis maintenant, avec Internet, ça permet quand même de ne pas être obligé d'aller systématiquement voir sur place comment ça se passe. Mais on a quand même parcouru, avant de les baliser, pas mal de fois les chemins pour être sûr que, si vous voulez, il y a des problèmes de propriété privée. Il y a des chemins qui sont privés. Sur lesquels on préfère éviter, parce que même si on a une autorisation de passage du propriétaire, il suffit qu'8 jours après, ils nous disent « Non, maintenant c'est fini, et c'est fini ». Donc en Eure-et-Loire, on a, je crois, dans le coin de Dreux, là, non, c'est dans l'Eure, un petit passage où il n'y avait pas d'autre choix que de passer sur une propriété privée. Mais sinon, les accords se font, enfin pour nous, en Eure-et-Loire, municipalité et notre association. En dehors des chemins de randonnée de FFR qui, eux, sont carrés, balisés, autorisés. Enfin bon, c'est très, très administratif. Nous, c'est plus léger et heureusement. Et c'est comme ça qu'on arrivait à faire des tracés relativement vite. C'est qu'on allait, été voir tous les maires. Et tous les maires, sauf un, en Eure-et-Loire, nous ont dit « Mais magnifique, les gars, allez-y, on vous soutient. » Et souvent, et la plupart du temps d'ailleurs, ils ont payé le balisage dans leur commune qui est symbolisé par des mosaïques ou des poteaux en bois, enfin des balises en bois avec marqué chemin de Compostelle. plus évidemment les petits coups de peinture jaune-bleu, plus les petits autocollants, de manière à ce que ça soit tout à fait clair. Voilà.
Et alors, toutes ces normes-là, je suppose, c'est rassemblé dans une fédération nationale.
Ben voilà.
Et donc, vous recevez de temps en temps tous les matériaux nécessaires pour
Cette balise. Le balisage, il est pour nous départemental, mais vous avez des associations qui recouvrent plusieurs départements, comme la Normandie en particulier, et d'autres associations qui sont vraiment locales. Notre fédération, la Fédération française des associations des chemins de Compostelle, FFACC, a promu un balisage normalisé sur France entière, qui est en train de se réaliser doucement, parce que avant, chaque association faisait son petit balisage dans son petit coin. Des fois, ça n'avait rien à voir d'un département à l'autre ou d'un canton à l'autre, ce qui fait que c'était quand même pas évident. Bon, maintenant, c'est normalisé, jaune-bleu, enfin bref, c'est les mêmes normes que la FFR, hein, de toute façon. Les autocollants sont centralisés au niveau de la fédération, mais sur place, c'est chaque association qui va voir chaque mairie et qui se débrouille, entre guillemets.
Donc votre budget est un budget local,
très très
en
local.
En accord avec les municipalités ou cotisation de quelques adhérents?
Au niveau adhérent, nous avons une cinquantaine d'adhérents, ce qui est peu. Mais ce qui est intéressant dans notre association, c'est que sur les 50, nous en avons au moins 15 qui sont extrêmement actifs. Donc ça nous permet de quand même faire beaucoup de choses. Donc on a fait le balisage. Autres actions que l'on essaye de faire le plus souvent possible, c'est des retours de pèlerinage. C'est-à-dire que des pèlerins qui rentrent viennent une soirée parler de leur pèlerinage et de leur pérégrination. Voilà, on va en faire une à fin janvier, début février, sur Chartres. Et sur notre site, il y aura, dès que possible, toutes les données et coordonnées. Ça se passe souvent au Café Serpente parce qu'ils nous accueillent fort gentiment. Et le soir, ils ont un petit peu de place, donc ils nous laissent une salle. Et ça permet comme ça de se retrouver, de se réunir. On fait des conférences aussi. Allez sur notre site internet Compostelle 28, que vous trouverez très facilement, et sur lesquels vous trouverez tous les renseignements. On a fait un mois de travail là sur Dreux, début janvier 2016. Où pendant un mois, on a eu notre exposition qui était à la médiathèque, et on avait toutes les semaines une conférence ou un débat autour de Compostelle, évidemment. Ça a été beaucoup de travail pour les gens qui sont occupés sur Dreux, et puis ça amène aussi pas mal de monde. Et on était en collaboration avec la FFR, là, et c'est vraiment très très bien. Voilà, ça s'est bien passé, je pense. Bon, sinon, d'autres choses qu'on fait, on va là pour le 30e anniversaire du premier itinéraire culturel européen, dont les chemins de Saint-Jacques. En octobre, on devrait faire une manifestation régionale et même nationale pour manifester notre vitalité au niveau France entière par rapport aux autorités administratives qui, en Eure-et-Loire, ont un peu tendance à nous oublier. Alors qu'en Normandie, il y a une coopération fabuleuse.
Ah oui.
Voilà.
Et votre association existe depuis quand ?
Alors, elle a été créée en l'an 2000 par son président fondateur qui est décédé maintenant, Jacques Chevalet, qui a initié, je dirais, après son retour de pèlerinage, il a initié l'association justement pour aider le pèlerin et le renseigner chaque fois qu'il est possible. Parce que lui, il s'est aperçu qu'à l'époque, il n'y avait rien, rien, rien. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait le pèlerinage 2005-2007. À l'époque, j'avais un bout de papier avec « il faut passer par tel village », mais entre les deux, débrouillez-vous. On s'est perdu quand même un certain nombre de fois, même si ça fait partie du jeu.
Donc, dans l'année 2017, vous avez des manifestations particulières, à part celle du mois d'octobre que vous
voilà,
venez de citer.
Voilà, je dirais que ça va être notre gros morceau, parce qu'on aimerait promouvoir le chemin à travers ces traditions, c'est-à-dire à pied, en vélo, à cheval, et même par les voies d'eau, parce que jadis, il y avait beaucoup de transports par voies d'eau. Mmh. Donc on aimerait symboliser ça fin octobre, par des petits trajets. Alors à Chartres, c'est sûr, ça se fera, peut-être sur Dreux, peut-être sur Châteaudun, peut-être sur Épernon, qui sont les points forts du chemin. Qu'on ait une petite manifestation le même jour pour montrer la vitalité des chemins et des gens qui sont dessus. Quoi.
Et maintenant, maintenant, pour faire vraiment le vrai parcours, c'est quoi ? C'est à pied, en vélo ?
Oui, à cheval un petit peu, accompagné par un âne, des choses comme ça.
D'accord.
Mais la grosse majorité, c'est à pied.
Oui. Voilà. Mais on ne prend pas les cours d'eau, on ne prend plus les cours d'eau.
On les suit. Oui.
Un des points quand même importants, c'est que pour partir pour Compostelle, il faut être équipé. Il faut un sac à dos, des chaussures. Voilà. Si on est mal chaussé, ben on s'arrête au bout d'un certain temps. On se blesse. Alors, quel est le meilleur équipement, d'après vous, qu'il faut avoir pour partir à Compostelle?
Alors là, c'est pareil. Chaque pèlerin a ses petites manies, chacun a ses petites astuces. Je dirais qu'il faut se préparer avant. On dit qu'il faut faire à peu près 300 km à pied avant de partir. Alors on démarre en faisant, mettons, 5 km avec rien sur le dos, et puis au fur et à mesure, deux fois par semaine, ça semblerait être aussi un bon rythme. Et chaque fois qu'on peut, on rajoute un petit peu dans le sac, on va un petit peu plus loin pour arriver à être capable de faire 20-25 km avec un sac de 10-12 kilos. Alors qu'est-ce qu'on met dans le sac? La moindre chose possible. On dit qu'il ne faut pas dépasser le dixième de son poids. C'est difficile. Mettons, si on part sur une base de 80 kilos, ça fait un sac de 8 kilos, chargé avec la nourriture pour la journée, plus l'eau, beaucoup d'eau, l'été en particulier, dedans. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Il faut partir le sac le plus léger possible, parce qu'on l'a sur le dos et tout doit être dedans. Et on a trop tendance au départ, surtout avec des habitudes d'occidental bien confortables, de prendre des tas de choses qui, au bout de quelques jours, on se dit que c'est inutile. Voir pour ça le film Saint-Jacques Lamèque, qui, d'une manière humoristique, montre très bien ce qu'il faut pas faire. Mais les chaussures, c'est l'essentiel. Les chaussures, ça doit être en même temps des protections pour le pied et des pantoufles. Il faut que dedans, on ne soit absolument pas gêné et il ne faut pas que le pied bouge, sinon les ampoules sont garanties. Donc ça se règle avant. C'est-à-dire qu'avant de partir, on essaye ses chaussures. C'est très 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 important. Après, chacun ses petites manies, entre guillemets. Il faut pouvoir le porter sur 30, 40, 50, 60, 80 jours. Et c'est quand même pas évident. Et dans le sac, on doit avoir aussi de quoi manger le midi, éventuellement soir, un jour, mais ça peut être quand même des trucs style ration, parce que la plupart du temps, on trouve, mais ça nous est arrivé plusieurs fois, et même encore actuellement. Eh ben, vous avez la boulangerie du pays qui est marquée sur votre guide, super, je vais pouvoir m'acheter du pain, enfin bref. Puis la boulangerie, elle est fermée pour une raison X. Et là, eh ben, il n'y a plus qu'à faire 5, 7, 8, 10 kilomètres de plus. Mais le plus léger possible, c'est le mieux. Alors je sais bien que maintenant, si on n'a pas le smartphone, si on n'a pas ci, si on n'a pas ça, on est perdu. Le smartphone, au fond du sac, il est très très bien. Et on le sort vraiment, aller le soir, quoi. Mais c'est pas indispensable. Et même, il y a des gens qui les laissent chez eux, et je trouve que c'est une parenthèse, le pèlerinage. Donc si on peut éviter de rester dans nos habitudes d'occidentaux, ben c'est bien, ça permet de se retrouver, hein. C'est bien, hein. Le pèlerinage, entre autres, c'est marcher, manger, dormir. C'est l'essentiel. Quand vous avez réglé ces trois problèmes-là, le reste est un peu superflu. Bon, je sais bien que des fois, on passe aussi un accord avec la famille, parce qu'il faut donner des nouvelles et tout ça. Mais lorsqu'on peut l'éviter, c'est encore mieux.
Oui, parce que la famille reste loin et s'inquiète.
La famille, elle peut rester quasiment 3 mois sans avoir de nouvelles. Je connais certains pèlerins qui ont fait ça. Bon, la famille, elle n'était pas ravie. Hein. On aime bien quand même avoir des nouvelles. Bon, on peut passer, un accord avec la famille en disant, voilà, tous les soirs, je vais vous envoyer un SMS, point. Ou tous les 3 jours, je vous passe un coup de fil le soir, bon.
Bien, sur 2017, il y a encore des choses à dire?
Alors, sur 2017, on va faire un retour, comme je vous disais, de pèlerinage des 3 derniers pèlerins qui sont de l'association, qui sont partis et qui sont revenus. Ça sera fin janvier, début février. Ensuite, on aura notre assemblée générale. Bon, très bien. On pense qu'on va organiser aussi, en mai-juin, autour de Nogent-le-Rotrou, qui n'est pas sur les chemins de Compostelle, mais où on a trouvé des traces de pèlerinage. Une petite randonnée, présentation des alentours, autour de cette ferme avec des symboles jacquaires. Et là, on ferait à ce moment-là une randonnée qui serait en même temps autour des chemins de Saint-Jacques, bien sûr, autour de Saint-Jacques, de la légende et autres, mais qui serait aussi en liaison avec les producteurs locaux bio, si possible. Parce que on peut penser que le départ sur les chemins de Saint-Jacques, c'est aussi une possibilité de retrouver une vie qui soit beaucoup plus naturelle que celle que l'on a actuellement, surtout en ville. Le troisième projet dont on parlait tout à l'heure, c'est le 30e anniversaire. Nous avons dans nos activités la tenue du local fédéral qui est au Puy, où on renseigne les pèlerins, on les accueille pas, on renseigne pèlerins, futurs pèlerins, touristes, sur ce que sont les chemins de Compostelle et leurs possibilités.
Ben oui, c'est un grand rendez-vous, hein, le Puy.
Ben, c'est un grand rendez-vous qui est un peu artificiel, parce que le Puy n'a jamais été un point de départ des chemins de Compostelle. Comme nous l'avait si bien dit le gestionnaire des archives du Puy, qui a dit non, le chemin du Puy, ça n'existe pas. Le Puy est un point de passage, comme Tours, comme Vézelay, comme Arles. Ce sont des points de passage, ce ne sont pas des points de départ. Parce qu'à l'époque, la Grande Aquitaine arrivait jusqu'à ces villes-là. Et le moine qui a fait dans le Codex Calixtinus, enfin qui a été récupéré dans le Codex Calixtinus, qui a fait les chemins de Compostelle, il était de la Grande Aquitaine. Donc il n'avait pas mission de promouvoir à l'extérieur de la Grande Aquitaine. C'est assez rigolo parce que finalement, ce qu'il a fait, Aymeric Picot, c'est le premier, enfin entre guillemets, premier guide du routard. Faut surtout pas dire ça à un historien parce que là, on se fait assassiner. Mais je dirais que ça permet de donner des points de repère, quoi. Qui n'ont pas changé depuis, hein, n'ont pas changé.
Ben merci beaucoup et puis bonne année, hein, et bonne chance pour l'ensemble des activités de cette association. Et maintenant, ben, nous allons, en attendant le mois prochain d'écouter une nouvelle association, eh bien, nous allons écouter un peu de musique.
Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? La source vive, celle qui te motive, a-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main? Pour que ta quête un jour te projette tout seul, sac au dos, en humble pèlerin. Pour que ton rêve aujourd'hui soulève autant de poussière en mon pauvre jardin. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. Bien que je sache que rien ne m'attache et que je pourrais suivre aussi la même voie, c'est dans ma tête que toujours secrète se trace une route où je m'en vais parfois. La marche lente s'étire et serpente, je tangue et chemine le long des coteaux. Mais mon voyage n'est fait que de mirages. Ô toi, pèlerin, prête-moi ton manteau. La route est longue jusqu'à Compostelle. D'envoyer quelqu'un à sa place marcher. Dans tes prières, sois mon mandataire. De mon catéchisme, j'ai tout oublié. Les paysages seront les bagages que tu garderas au fond de tes yeux clairs. Sous quelques toiles, à la belle étoile, tu feras ton lit dans la douceur de l'air. La route est longue jusqu'à Compostelle. Cette route, tu feras sans doute de belles rencontres, on te tendra la main. Et dans les gîtes où parfois on s'abrite, tu ne seras qu'un parmi d'autres humains. D'un pas tranquille.